mode d'emploi.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Fréquence Paris-Péril, toujours, bien évidemment. Eh bien, après les vacances bien méritées, toute l'équipe de la Fondation Copernic est aujourd'hui au complet. Nous vous avons préparé quelques bonnes émissions pour cette année, donc entre aujourd'hui et le mois de juin. Et donc, vous pourrez les écouter comme chaque année, tous les quatrièmes vendredis du mois, entre 20h et 20h30. Et aujourd'hui, eh bien, pour présenter cette émission, Didier et Corentin.
Bonsoir. La rentrée scolaire n'est pas si loin. Et d'ailleurs, vos marmots sont d'ailleurs peut-être même à l'heure où je parle en train d'ouvrir leurs trousses pour faire leurs devoirs. Et le stylo à la main, ils travaillent dur pour obtenir des notes qui devront leur ouvrir les portes d'un avenir heureux, où ils se rêvent peut-être astronaute, président, docteur ou footballeur. Ce soir, c'est un peu d'eux dont nous allons parler, et plus précisément, en ce début d'année, de leur école et de leur chance d'atteindre ce métier de leur rêve. Cette école qui se veut intégratrice, créatrice de cerveau de demain et vecteur de l'ascension sociale, de l'égalité. Mais au final, est-elle vraiment? On peut se poser légitimement la question au vu de plusieurs chiffres. Le taux de réussite au brevet des collèges qui est de 96% pour les enfants de cadre et de 80% pour les enfants d'ouvriers, quand même 16% de différence. Les enfants d'ouvriers aussi suivent massivement les filières les plus pour les élèves en difficulté, à 43% contre seulement 2% pour les cadres. Et je pourrais continuer sur des chiffres comme ça, mais on y reviendra plus tard. Ce soir, donc, nous allons essayer de savoir, de comprendre comment va notre système éducatif. L'école a-t-elle bien deux vitesses, comme elle ne devrait pas avoir? Comment gère-t-elle ces inégalités? D'ailleurs, essaye-t-elle de les gérer? Par quels moyens? Ou juste de sélectionner les bons élèves? Les mesures politiques qui sont en cours, auront-elles un impact positif ou non? Ont-elles eu un impact positif ou non au cours des dernières années? Et que doit-on faire pour aider l'école? Pour discuter de ces questions, la Fondation Copernic reçoit deux invités. Valérie Sipahimalani.
Bonsoir.
Bonsoir. Secrétaire générale adjointe au SNES, du SNES, donc le syndicat national des enseignements du second degré. Et d'autre part, au téléphone, Denis Meuret, professeur émérite en sciences de l'éducation. Bonsoir.
Bonsoir Denis, vous êtes bien à l'antenne?
Oui, absolument.
Eh bien, bonsoir alors.
Vous pourrez donc intervenir ce soir en nous appelant au 01 40 05 06 10, comme d'habitude. Et dès la semaine prochaine, vous pourrez nous retrouver en rediffusion, comme toutes les émissions précédentes, sur le site de la Fondation Copernic. Mais également en rediffusion sur la radio Fréquence Paris Pluriel, mercredi matin prochain à 7h, en rediffusion.
Eh bien, donc, bonjour Denis, bonjour Valérie. Peut-être pour commencer cette émission, comme ça a été dit tout à l'heure par Corentin, pourrions-nous ensemble essayer un petit peu d'explorer le bilan un peu hein, de l'école aujourd'hui, de voir un petit peu effectivement sur quoi, quel est un petit peu le niveau hein, finalement des inégalités en France, et en se centrant peut-être plus particulièrement sur le niveau collège et lycée, puisque je crois que Denis, vous avez travaillé hein, sur ces questions de collège et de lycée, et par ailleurs comme Valérie est secrétaire générale adjointe du SNES, donc on peut peut-être essayer de concentrer notre propos sur ces questions. Denis, peut-être on vous laisse un petit peu la parole pour nous dire ce que vous avez pu travailler sur ces questions et quels sont un petit peu les résultats qui cadre un petit peu le sujet des inégalités en France en matière scolaire.
Oui, écoutez, j'ai pas mal travaillé là-dessus. Et effectivement, alors soit à partir des évaluations de l'ADEP.
L'ADEP étant l'organisme qui structure. Voilà, l'étude des statistiques au ministère de l'Éducation nationale.
Voilà, et aussi à partir des évaluations internationales, soit celles de l'OCDE, soit celles d'autres organismes. et notamment PISA, qui évidemment est un bon point d'observation du collège, puisque ce sont les élèves de 15 ans qui sont testés. Une petite partie viennent de passer quelques mois en seconde quand ils sont testés. Enfin, non, la plupart viennent de passer quelques mois en seconde quand ils sont testés. D'autres sont encore en troisième. Et d'autres sont en seconde professionnelle.
Pour nos auditeurs, PISA, c'est une enquête qui est menée au niveau européen pour effectivement...
C'est une enquête qui est menée au niveau mondial.
Pardon, mondial, excusez-moi.
Les 34 pays de l'OCDE,
oui, c'est vrai.
Une trentaine de pays, qui est menée tous les 3 ans. En maths, en compréhension de l'écrit et en sciences.
Bien. Alors, que nous disent à la fois ces travaux européens, français et internationaux?
Écoutez, deux choses essentiellement que je développerai dans l'ordre. Enfin, la première, c'est que donc à 15 ans, les inégalités scolaires sont en France parmi les plus fortes de l'OCDE.
Donc des pays riches, disons.
Les pays riches, oui. Enfin, sachant que dans l'OCDE, il y a aussi des pays comme
quelques pays comme le Mexique et autres, c'est vrai.
Qui sont quand même un peu moins riches. Et ces inégalités sont de deux ordres. C'est des inégalités inter-individuelles entre les faibles et les forts.
Mm-hmm.
Et aussi des inégalités sociales, et ça, on le mesure à travers l'influence du milieu social sur le score. Alors, et le deuxième point, c'est tiré de d'études françaises, et c'est l'idée que les écarts, en particulier entre élèves qui fréquentent l'éducation prioritaire et élèves hors éducation prioritaire, sont très forts en fin de troisième et sont beaucoup plus forts en fin de troisième qu'en fin de sixième. Donc se sont creusés pendant le collège.
Bien, je vois Valérie qui hoche un petit peu la tête. Peut-elle nous dire ce qu'elle retient aussi de ces questions d'inégalité scolaire?
Non, on est bien d'accord que la France est un pays avec de très fortes inégalités scolaires. Cela étant, moi, je pense que ce que je retiens plus, peut-être, c'est que ces inégalités se sont creusées ces dernières années. Maintenant que les inégalités se creusent de la sixième à la troisième, je sais pas, ça dépend un peu des matières, c'est plus compliqué que ça. Mais le collège ne les résorbe pas, et ça, c'est un vrai souci, de toute façon.
Alors, effectivement, les inégalités se sont creusées, les inégalités à PISA se sont creusées depuis 2003 très fortement.
Mais c'est vrai que c'est bien un peu là le sujet tout de même, parce que on reviendra dans une deuxième partie de l'émission sur les mesures qui ont pu être prises, nombreuses. On ne peut pas dire que dans le domaine de l'éducation, les différents gouvernements successifs n'aient rien fait. Ça serait quand même mentir de dire que rien n'a été fait. Mais ce qui est quand même le constat donc que vous faites, c'est que malgré ces dispositifs et ces mesures, ces réformes, ces fameuses réformes à l'éducation nationale, en rappelant le mammouth dont parlait il y a quelques années de cela un ministre, Claude Allègre, voilà, absolument. Donc les réformes se sont multipliées et vous nous dites aujourd'hui, après des dizaines d'années, des décennies de réformes.
Je ne suis pas sûr que ce soit les réformes qui soient en cause, mais ça, on en reparlera.
Peut-être un peu. Oui, mais enfin, qui sont en cause. Non, je ne dis pas qu'elles sont en cause. Alors, je dis simplement qu'on constate néanmoins que.
Oui, absolument.
C'est ça le.
Et si on en revient sur vraiment les causes de ces inégalités, donc on a vu en fait la manifestation. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on a des pistes pour établir les facteurs de ce creusement des inégalités?
Écoutez, j'aimerais quand même qu'on prenne d'abord la mesure de ces inégalités.
On vous écoute.
Si vous voulez bien. Et effectivement, après, il faudra parler de d'où ça vient. Donc, je me souviens avoir lu dans les années 90, c'est vieux, un texte d'attaque qui opposait le système français, qui était voué à l'égalité, et les systèmes anglo-saxons qui se moquaient complètement de cette dimension.
Mmh.
Et il se trouve que à cette époque, et alors ça c'est pas récent, l'influence du milieu social sur les carrières scolaires, c'est-à-dire sur le plus haut diplôme atteint, cette influence était plus forte en France qu'aux États-Unis. Et ça, ça fait longtemps, entre autres parce qu'on avait un système très malthusien où on laissait monter très peu de monde, et évidemment, comme on laissait monter très peu de monde, le tri social était encore plus fort. Alors, ce qui est vrai depuis 2006, pardon, c'est que à ces inégalités de carrière se sont ajoutées des inégalités de performance scolaire, c'est-à-dire des compétences des élèves, en particulier à 15 ans.
Ce que vous appelez alors donc plutôt les inégalités interindividuelles, c'est ça ?
Que possèdent les élèves à 15 ans. Donc c'est tout à fait autre chose que la carrière scolaire.
D'accord. Hein ?
Et donc jusqu'en 2003, on utilise trois indicateurs pour mesurer les...
À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal.
Le niveau des élèves les plus faibles, l'écart entre les faibles et les forts, et puis l'influence du milieu social sur la performance scolaire.
Et qu'est-ce qu'il emporte sur ces trois indicateurs ?
Et sur ces trois indicateurs, aux deux premières évaluations PISA, 2000 et 2003, ces trois indicateurs étaient égaux ou meilleurs en France qu'aux États-Unis. Depuis 2006, ces trois indicateurs nous indiquent un système scolaire plus égalitaire aux États-Unis qu'en France. Et, par exemple, à PISA 2012, le premier décile, c'est-à-dire le plafond des 10% les plus faibles, était à 358 en France et à 378 aux États-Unis. Ça fait un écart de 20 points, c'est-à-dire en gros une demi-année scolaire, parce qu'on considère que en une année, un élève moyen progresse de 40 points sur l'échelle PISA. Donc, on écrit l'écart pour le premier décile, donc le plafond des 10% les plus faibles, c'est 20 points. En science, c'est moins 10 points. En maths, c'est moins 3 points. C'est non significatif, c'est moins important.
Enfin, ce que vous voulez nous dire, c'est que, en gros, les inégalités ont plus progressé. Enfin, la hiérarchie entre les États-Unis et la France est inversée. Et qu'aujourd'hui.
On est aujourd'hui dans une situation plus inégalitaire que les États-Unis. Je prends les États-Unis parce que c'est pour nous, en France, le paradis de l'inégalité.
Tout à fait.
Bon, et c'est vrai en ce qui concerne les inégalités de salaire ou les inégalités de revenus, mais en fait, le système scolaire américain est d'autant plus équitable, si vous voulez, qu'il part d'une situation sociale beaucoup plus inégale qu'en France, et il arrive à une situation une inégalité des performances scolaires des élèves moindre qu'en France.
Ouais, on va passer la parole à Valérie qui, je crois, veut réagir.
Non, moi, il me semble que les comparaisons internationales à partir de PISA, c'est parfois un petit peu compliqué. Je rentrerai pas dans le détail de la façon dont les États-Unis font passer PISA à leurs élèves. Mais ce qui me semble très important, c'est de comparer le système éducatif français au fil du temps, ce que permettent les études PISA. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que vous pouvez dire à un élève français, vous lui posez la question, dis-moi qui tu es. Et moi, en tant que prof, je peux lui dire s'il va réussir ou pas et quel genre de baccalauréat il peut avoir. On en est rendu là.
Dit autrement, vous insistez beaucoup sur les dimensions inégalités socio-économiques.
Exactement. Ça veut dire que le destin scolaire d'un élève est extrêmement corrélé à son origine sociale, et de plus en plus. Et c'est ça ce que montre PISA.
Oui.
On va laisser Valérie développer, si vous voulez bien.
Selon l'origine sociale est de 57 points en France contre 35 aux États-Unis. Et madame, je souhaite quand même ne pas accepter qu'on jette l'opprobre sur la façon dont on passe PISA aux États-Unis.
C'est un débat. On sait que c'est un débat qui a agité pas mal la communauté scientifique sur est-ce qu'effectivement PISA permet de bien, je dirais, construire des hiérarchies entre pays. On va peut-être pas rentrer dans ce débat qui est un peu compliqué, mais on va redonner la parole à Valérie.
Non, moi ce que je voulais dire aussi, puisque vous nous demandez quelles sont les origines de ces inégalités, nous au SNES, pour caricaturer, je suis sûre que Denis Meuret pourra me reprendre au besoin, on voit deux soucis. Le premier, c'est que on a de moins en moins de mixité sociale dans les établissements scolaires, en particulier dans les collèges. C'est lié à deux facteurs. D'une part, on n'a pas de mixité sociale dans les territoires. Donc ça, c'est la politique de la ville. Et d'autre part, l'ouverture de la carte scolaire fait qu'il y a un certain choix de certains parents qui ont la possibilité d'éviter certains collèges. Je prends beaucoup de précautions pour le dire. Mais de fait, on a des collèges qui deviennent de véritables ghettos, à la fois ghettos de milieux populaires, des collèges qui deviennent donc fuis par les classes aisées. Et puis on a d'autres collèges qui sont des ghettos de la classe aisée. Et donc dans les collèges ghettos de la classe aisée, vous allez avoir un succès extraordinaire à PISA, c'est parmi les meilleurs résultats au monde. Et puis dans les collèges ghettos des milieux populaires, là vous aurez parmi les moins bons de PISA. Et ça, c'est le premier souci qu'on peut avoir. Le deuxième souci, c'est qu'on a probablement un enseignement de par notre héritage historique qui est un enseignement qui n'est pas adapté à des élèves qui sont pas en connivence scolaire dès leur plus jeune âge dans des familles qui connaissent bien l'école et qui ont réussi. Quand vous êtes dans une classe face à des élèves dont les parents n'ont pas le bac ou dont les parents n'ont pas été scolarisés, ce qui est quand même le cas pour plus de la moitié des élèves en France et encore plus dans ces collèges-là, vous n'êtes pas en mesure d'assurer les programmes pantagruéliques et complètement incohérents entre eux que fournit le collège actuellement. Donc on a d'une part peu de mixité scolaire et sociale, ce qui permet pas de construire, de tirer les élèves vers le haut dans les classes, et d'autre part, des contraintes d'enseignement qui sont pas les bonnes.
Oui, allez-y. La question qui est posée, c'est en gros, c'est les inégalités spatiales. Hein. On voit bien qu'il y a à la fois les inégalités qui peuvent être expliquées en partie par l'origine sociale et des parents. Il y a aussi des inégalités spatiales avec des territoires qui sont plus ou moins dans la composition à la fois des familles.
N'oubliez pas les inégalités entre faibles et forts.
Alors, allez-y, parce qu'effectivement, c'est moins développé.
Entre faible et fort, je compare, si vous voulez, quand on compare les performances en maths de la France et de la moyenne des pays de l'OCDE, c'est extraordinaire. Et là, je rejoins ce que disait
Valérie.
Pour la moyenne, on est à peu près à la moyenne de l'OCDE. La moyenne française et la moyenne de l'OCDE sont à peu près identiques.
Donc, dit autrement, la France est à peu près, se situe globalement dans la moyenne des pays.
C'est les écarts types qui sont forts.
Pour les plus faibles, on est beaucoup plus faible que la moyenne de l'OCDE. Et pour les plus forts, on est plus fort que la moyenne de l'OCDE.
D'accord.
Donc, on a une pente, si vous voulez, une dispersion des performances entre les plus faibles et les plus forts.
Ah oui, mais ça, on est bien. Donc on en déduirait assez logiquement une inégalité, c'est-à-dire que les plus faibles sont vraiment plus faibles et les plus forts sont nettement plus forts. Donc on a bien une polarisation aux deux extrêmes.
De la courbe. Alors pour quant à l'origine, je conviens tout à fait avec Valérie que il y a de la ségrégation sociale et que ça serait mieux qu'il n'y en ait pas. On sait effectivement que les inégalités sont moindres quand les établissements ne sont pas ségrégés. On sait aussi d'ailleurs que le pire, c'est pas des collèges plus ou moins ségrégés, mais c'est les filières. C'est l'existence de filières pour élèves forts, de filières pour élèves faibles qui crée le maximum d'inégalités. Mais donc, évidemment, plus de mixité sociale, ouverture de la carte scolaire, oui, ça n'a pas dû arranger les choses. Ceci dit, entre 2003 et 2006, qui est le moment où ces inégalités se sont creusées fortement, il n'y a pas eu de changement sur la carte scolaire ni sur la mixité sociale d'après les statistiques que j'ai pu consulter.
Donc, effectivement,
alors, je suis aussi davantage d'accord avec l'enseignement pas adapté aux élèves qui n'ont pas la connivence culturelle avec l'école.
Ce que disait Valérie.
Donc c'est effectivement, il y a une notion du programme qu'on abordera dans la prochaine partie de l'émission.
Un point tout à fait important. On a travaillé là-dessus avec une collègue. Si vous voulez, il y a deux modèles d'inégalités sociales, de genèse des inégalités sociales, soit par la connivence culturelle entre les parents favorisés et l'école, soit par le fait que les parents favorisés ont plus d'argent et donc peuvent mettre leurs enfants dans des meilleures écoles.
Très bien, écoutez, on va peut-être
passer à la première pause musicale pour marquer cette première étape de notre émission, en particulier où on a compris les enjeux de ces causes et leur traduction en chiffres. Donc la première pause musicale, ce sera « Laisse pas traîner ton fils », non évocateur.
À l'aube de l'an 2000, pour les jeunes, c'est plus le même deal. Pour celui qui traîne comme pour celui qui file tout droit. De toute façon, y'a plus de boulot. La boucle est bouclée, le système à la tête sous l'eau. Et les jeunes sont saoulés, salis sous le silence. Seul issue la rue. Laisse pas traîner ton fils. Laisse pas traîner ton fils. Si tu veux pas qu'il grille.
Eh bien, bonjour, vous êtes toujours sur Radio Fréquence Paris Pluriel, animé aujourd'hui et ce soir par la Fondation Copernic, et toujours sur la question des inégalités scolaires avec nos deux invités, Valérie Sipahi-Lani. Excusez-moi la difficulté à prononcer votre nom, mais vous devez être habitué, je pense.
Tout à fait.
Qui est secrétaire générale adjointe du SNES. Et puis Denis Meuret, qui est professeur émérite en sciences d'éducation. Peut-être donc sur cette seconde partie d'émission, on pourrait, après avoir un peu tenté, très rapidement malheureusement, de faire un peu le bilan des inégalités en France, peut-être voir repartir d'un moment fort dans l'histoire de l'éducation, et en particulier dans le second degré, qui était la réforme qui a été mise en place dans les années 70 autour de la question du collège unique, puisque c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui est toujours théoriquement d'actualité, si j'ose dire. Voilà, peut-être repartir sur cette question. Valérie, vous demandez un petit peu quel était finalement le sens de cette réforme qui a structuré quand même, ce que l'on dit un peu le système français dans le secondaire, et quel bilan on peut tirer, et comment est-ce que ce système dit de collège unique dans sa philosophie a été ou non, bousculé, et quel est un petit peu le bilan qu'on peut en tirer aujourd'hui. Et ensuite, on donnera la parole à Denis Meuret.
Alors je vais faire une petite histoire totalement caricaturale, mais je l'assume. Le collège unique des années 75, il est issu de deux types de scolarisation des adolescents, donc de la tranche 10-15 ans. Un type de scolarisation qui était dans la continuité de l'école primaire, pour les meilleurs élèves des milieux populaires, on appelait ça l'école primaire supérieure, et ça menait à une insertion professionnelle rapide. Et puis il y avait une toute petite fraction de la population qui était scolarisée dans les petits lycées, sur le modèle des lycées jésuites. Et quand, peu à peu, par une idée généreuse, on a cherché à scolariser l'ensemble des ados dans une même structure, ou des pré-ados, c'est selon, dans une même structure, on a appelé ça le collège unique dans les années 70, et on a gardé le modèle du petit lycée, avec des professeurs qui enseignent une discipline, et non pas un professeur des écoles qui est polyvalent. Donc on s'est retrouvé sur le modèle élitiste du lycée napoléonien, dans le collège. Ça, c'était le collège unique. Quand on a collège unique, parce que c'est le même lieu de scolarisation pour toute une génération. C'est
unique,
ça, ce
unique
terme.
Veut dire quoi, alors, concrètement?
Unique, ça veut dire qu'on est scolarisé avec les mêmes horaires, les mêmes contenus de programme, dans des lieux où, normalement, on devrait se mélanger. De fait, le mélange ne s'est pas forcément fait partout ni tout de suite. De fait, on s'est bien rendu compte assez rapidement qu'on avait des soucis, et donc on a inventé la possibilité de quitter le collège à 14 ans pour certains, et d'ailleurs ça revient régulièrement, on parle de préapprentissage, d'apprentissage junior, c'est une idée assez de droite, disons. On a inventé aussi des filières avec, par exemple, là, ces dernières années, la volonté des classes internationales, par exemple. Les classes internationales sont des classes où on pratique certaines langues rares très tôt dans la scolarité, qui sont des classes d'élite. Mais on a aussi...
Donc, les classes de langue aussi.
Comment ?
Et les classes bilingues.
Alors les classes bilingues, moi j'ai pas une analyse de classe d'élite parce que c'est pas ce qui nous remonte du terrain.
On reviendra sur ce sujet.
Donc globalement, ce collège unique, il a jamais fonctionné vraiment comme unique. Dans les années 80, on s'est rendu compte que certains collèges étaient en très grande difficulté par rapport à d'autres dans les résultats au brevet, et on a mis en place la politique d'éducation prioritaire, qui était une politique qui à l'époque consistait à donner plus de moyens, donc la possibilité de travailler avec des plus petits effectifs dans les endroits qu'ils nécessitaient. Et donc cette politique a porté ses fruits, puisque jusque dans les années 2000, mais alors là je m'adresse aux spécialistes au téléphone, donc j'espère que je dis pas de bêtises, jusque dans les années 2000, on a quand même eu plutôt une réduction des inégalités de réussite entre les collèges de l'éducation prioritaire et les collèges de base, on va dire. Et puis depuis les années 2000, les écarts se creusent de nouveau. Alors ça a suscité un certain nombre de réponses de l'institution, des réponses qui ont été d'une part de la dérégulation. On a dit aux collègues, je suis enseignante, je parle de mes collègues, hein, qui travaillent dans ces collèges-là, ben finalement, si vous faites pas tout le programme, c'est pas grave, on va vous donner un socle de connaissances, qui est une espèce d'ensemble minimal. Si vous faites, du moment qu'on a la paix sociale, c'est pas grave, donc surtout calmez vos élèves, et puis le reste, on verra après. Et donc, cette politique-là, qui s'est peu à peu dégradée, a conduit jusqu'à son paroxysme il y a 5-6 ans, je dirais, avec la politique du ministre Châtel, qui lui a dit dans ses collèges, il y a quelques bons élèves, on va les extirper dans des internats d'excellence, et puis les autres, ben écoutez, les autres, on va mettre en place un certain nombre de dispositifs qui ont fait décrocher ces collèges du collège ordinaire.
Donc si je vous entends bien, alors en gros c'est un collège unique qui n'est plus unique, c'est ça l'idée, hein ?
Qui ne l'a jamais été.
Qui ne l'a jamais été. Denis Meuret, votre appréciation sur cette question ?
Je suis beaucoup moins sévère.
D'accord.
Je partage le diagnostic que pose Valérie du petit lycée, et sur le fait aussi que, évidemment, il y a des collèges où il y a beaucoup d'élèves faibles et d'élèves pauvres, il y a des collèges où il y a beaucoup d'élèves forts et d'élèves riches, mais je redis que tout ça est... ces inégalités-là sont moins dommageables que les filières qui existaient auparavant. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que malgré tous ces défauts que vous avez évoqués, notamment cette histoire du petit lycée, le collège unique a fait mieux que ce que faisaient les filières qu'il a remplacées auparavant. Par exemple, la proportion de décrocheurs a baissé énormément.
Les décrocheurs, vous rappelez un petit peu.
Les décrocheurs, c'est les élèves qui sortent avant d'avoir un diplôme. Et donc, ces élèves qu'on trouve entre 16 et 18 ans et qui sont ni en emploi, qui sont plus en formation d'aucune sorte. Ni en emploi, ni en formation.
Ils sont sortis de la scolarité sans diplôme et finalement...
C'était 40% d'une génération... dans les années 70, avant le collège unique, et c'est 10% aujourd'hui. Alors évidemment, heureusement que ça a baissé, parce que le coût social de ne pas avoir de diplôme...
Si je peux me permettre de vous couper, augmenté. Mais en même temps, ce taux de sortants sans diplôme ne cesse de... Enfin, est totalement stable depuis maintenant une quinzaine d'années, hein, ça ne bouge plus. Hein.
Oui, alors c'est là que je voulais y venir. Par contre, depuis 2000, c'est stable. Il a cessé de baisser, alors que de 1970 à 2000, il avait beaucoup baissé. L'autre chose qu'il faut dire sur l'ouverture du collège est qu'elle a permis celle du lycée. Et là, il y a une étude remarquable de Éric Gurgan et Éric Morin qui a montré que les élèves qui ont profité de l'ouverture du collège puis de l'ouverture du lycée, oui, on fait beaucoup mieux que s'ils n'avaient pas eu cette scolarité. Leurs salaires, à 30 ans, se sont rapprochés de ceux qui faisaient déjà de longues études et qui donc n'ont pas bénéficié de cette ouverture, parce qu'ils faisaient déjà de très longues études.
C'est quelle génération ?
Eh ben, ils ont fait le travail à la fois sur la génération qui a profité de l'ouverture du collège, et sur celle qui a profité de l'ouverture du lycée dans les années 90, après les 80% de cheminement.
Je crois que Valérie a envie d'intervenir.
C'est vrai pour les deux générations.
Non, en fait, je vous posais la question de quelle génération, parce que nous, ce qu'on constate, c'est que ça s'est beaucoup ralenti, ça s'est détérioré, comme vous le disiez, avec les résultats de PISA, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a eu une époque où le collège et le lycée se sont ouverts, et on a l'impression que ça s'est un peu refermé depuis.
En termes d'ouverture à une génération, je dirais pas que ça s'est refermé, mais je dirais que les résultats, en partie du collège, sont moins bons, effectivement. Mais en termes de proportion d'une génération scolarisée, le collège unique joue toujours son rôle de scolariser l'ensemble d'une génération.
Tout à fait.
Mais quand même, en mettant en avant ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a toujours des écarts types très très forts dans cette moyenne, où il y a quand même des bons qui sont de meilleur en meilleur. C'est-à-dire c'est cette vision du collège, de l'enseignement unique, a réuni les gens, mais pas forcément égalisé le niveau.
Ça a massifié, voilà. Ça a massifié, mais nous, dans notre jargon, on dit que ça n'a pas démocratisé.
Si, ça a diminué les inégalités. Les inégalités des gens, disons, à 15 ans, si on comparait, même aujourd'hui, où c'est pas bon du tout, et avec les inégalités qui existaient en 1960, ça serait sans commune mesure.
On va pas effectivement quitter
les plus faibles et les plus forts. Si on avait fait passer une épreuve unique aux élèves de 15 ans en 1970, les plus faibles auraient été beaucoup plus faibles que les plus faibles aujourd'hui. L'écart entre les faibles et les forts aurait été beaucoup plus fort qu'aujourd'hui, etc.
Donc le collège unique a joué son rôle de ce point de vue. Alors c'est ce que vous dites.
Oui, je dis, il aurait pu faire mieux. Il n'a pas été très bien conçu. De ce point de vue-là, les écoles de base des pays scandinaves ont fait mieux que notre collège unique. Mais il a permis d'ouvrir le secondaire à proportion beaucoup plus grande d'une génération, et il a réussi à leur apprendre des choses.
Un point important dont on n'a pas parlé dans les causes, c'est qui me semble pour moi assez flagrante entre, en tout cas ce qu'on en dit, entre ces années 70, ces années 60 et maintenant, c'est le rôle et la vision qu'ont les élèves et les parents des professeurs. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens où effectivement le professeur on l'imagine comme ça sachant, comme une personne quasiment notable, alors que dans le temps le rôle de professeur a été très dévalué par de multiples réformes, par de multiples baisses de salaire ou de maintien de salaire, je voulais vraiment qu'on parle de ce rôle du professeur et des réformes. Comment l'ont impacté et du coup, comment ça a causé des impacts sur les inégalités.
Valérie.
Moi, je dirais que pour les familles des milieux populaires, il n'y a pas de dévalorisation de l'enseignement, de l'école. Il y a toujours, c'est toujours très important d'aller à l'école et on attend beaucoup de l'école, peut-être même trop. La dévalorisation, elle est plutôt, qui est une dévalorisation qui est salariale, c'est une dévalorisation qui touche plutôt les milieux aisés, qui eux estiment que de toute façon, à la limite, sans l'école, ils pourraient s'en sortir. Mais je ne crois pas, des études que j'ai pu lire, qu'il y ait une dévalorisation aux yeux des élèves qui sont les plus en difficulté, justement. Et c'est aussi un défi, puisque nous, ce qu'on constate, c'est que nos élèves les plus en difficulté sont ceux dont on voit le moins les parents. Et c'est ceux pour lesquels on aurait le plus besoin, justement, de voir les familles, pour travailler avec les familles, pour essayer de comprendre pourquoi il y a ce problème de réussite scolaire. Et là, l'institution est en grande difficulté, parce que les associations de parents d'élèves qui ont pignon sur rue ne sont pas du tout représentatives de ces familles-là.
Mais il y a eu un message fort du gouvernement, en particulier du gouvernement Sarkozy, qui était une diminution du nombre de professeurs, d'une part, mais aussi de mettre en avant... leur formation a été réduite, donc en disant le message c'est être professeur, ça, il n'y a pas besoin d'être formé derrière. Et je trouve ça des messages forts et dévalorisants pour un métier qui est tellement important.
C'est-à-dire qu'en France, vous avez 60 millions de spécialistes de l'école. Parce que quand vous allez acheter votre pain chez le boulanger, souvent, vous ne le faites pas vous-même. Mais l'école, tout le monde est passé par l'école. Donc tout le monde a son avis sur l'école, finalement. Donc on a cette difficulté-là. Nicolas Sarkozy, lui, pensait que les enseignants ne travaillaient pas assez. Moi, je tiens à rappeler qu'on est à 42 heures de travail hebdomadaire d'après les études du ministère. Donc on ne démérite pas du tout. Hein. Et on est recruté actuellement au niveau Master 2. Donc les enseignants ont une forte qualification, une rémunération qui n'est pas à la hauteur de cette qualification. Mais là encore, bon, les suppressions de postes, c'était dans un cadre très général, hein, c'était là de politique, de révision générale des politiques publiques. Monsieur Sarkozy n'aimait pas et n'aime toujours pas les fonctionnaires. Il considère qu'on est des sangsues, finalement, qu'on vit sur le dos du contribuable et qu'on n'est pas très utile. Hein. Donc c'est toute la question du service public qui se pose derrière cette politique-là, plus que la question de la valorisation des enseignants, il me semble.
Denis, si on reprenait un petit peu la question que vous avez soulevée tout à l'heure sur les filières et sur la question des classes bilingues. Bilingues. J'ai eu l'impression qu'il y avait un petit débat là entre vous et Valérie. Est-ce que vous pouvez reprendre un petit peu ce point? Parce que c'est vrai que on a l'idée, hein, assez, je dirais, intuitive comme ça, tout simplement, que le fait de promouvoir les langues le plus tôt possible. En plus, ça, on le sait, je dirais, par les études, hein, plus on démarre tôt, mieux on a de chances de permettre à l'enfant de développer ses connaissances linguistiques dans une langue étrangère. Et aujourd'hui, on voit ceci est remis en cause par la ministre actuelle de l'Éducation nationale. Quel est un petit peu votre avis sur ces questions?
Je vais vous donner mon avis là-dessus. Auparavant, je voudrais quand même revenir un peu sur la question que vous aviez posée avant sur le statut des profs et dire que d'après l'enquête Thalys de l'OCDE qui est auprès des profs, donc la satisfaction au travail des enseignants français est à peu près la même que celle qu'on observe dans les autres pays. Mmh. En revanche, ils pensent qu'ils sont très... qui sont pas du tout aimés par l'opinion publique. Et c'est là qu'il y a la représentation qui se font de l'estime que leur porte l'opinion publique est très très basse par rapport à ce qu'elle est dans d'autres pays. Et d'autre part, je veux dire qu'il n'y a pas de fatalité à une évolution à la baisse du statut des enseignants. Il y a des études aux États-Unis sur le statut, sur la perception de leur métier par les enseignants et d'où on tire un indice de ce statut et c'est à peu près vers 2007 que ce statut a été le plus haut.
Il n'y a pas de fatalisme, disons, c'est ça.
Il n'y a pas de fatalité à ce que on estime de moins en moins les enseignants et à ce que les enseignants soient de plus en plus malheureux dans leur métier. En particulier, dans les pays anglo-saxons, leur satisfaction augmente plutôt. Bon, alors votre question...
Très rapidement, on va essayer de...
Sur les classes bilingues. Écoutez, pour moi, je me réjouis de la fin des classes bilingues parce qu'effectivement, l'image que j'en ai, c'est qu'elles étaient détournées un peu de leur objectif pour créer des classes de bons élèves.
Des classes de niveau, alors.
Oui, des classes de niveau. Et du coup, je pense que leur suppression va améliorer l'hétérogénéité des classes. Et ça, c'est une bonne chose, comme Valérie le disait tout à l'heure.
Je vais devoir vous interrompre parce qu'on arrive à la fin de cette deuxième partie.
Sur la ségrégation dans les classes bilingues.
Et donc, pour étayer les propos de Valérie sur la complexité du rôle de professeur, nous allons écouter la sécurité de l'emploi des Fatal Picard avant la minute Copernic.
Ils sont marrants. Cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Et moi en bon prof, je suis préparé. Entre chaque tour, une bière, un joint, c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci, c'est décidé. mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à deux fois, je la vois pas tant que ça, la sécurité de l'emploi.
Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM, émission Monde d'emploi animée par la Fondation Copernic et consacrée aujourd'hui aux questions des inégalités scolaires. On rappelle qu'on a avec nous Valérie Sipahi-Malani et Denis Meuret qui sont avec nous ou par téléphone. Je laisse Didier nous faire un petit point sur l'actualité Copernic.
Eh bien oui, effectivement. Bon, simplement pour vous dire que prochainement, la Fondation Copernic va publier une note sur un rapport qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps, le rapport Dicombre-Excel, qui fait des propositions, disons, en matière d'évolution pour être, pour prendre des termes polis, d'évolution du code du travail. On pourrait tout simplement dire que l'objet de ce rapport est de casser effectivement les acquis qui restent encore présents dans le code du travail. Donc la Fondation Copernic se propose d'analyser un petit peu ces différents rapports et comme ceux qui ont été par exemple commis par la Fondation Terra Nova qui va à peu près dans le même sens. Et donc j'attire votre attention sur ce point et prochainement vous aurez droit vous pourrez lire un rapport de la Fondation Copernic. Alors si on reprend notre sujet maintenant, peut-être donner la parole à Valérie sur cette question justement donc des classes bilingues. Vous avez une appréciation qui est, disons, un petit peu différente.
Et qui rejoint aussi l'appréciation que nous pouvons avoir des options latin, par exemple. Ce qu'on constate sur le terrain, c'est que ces classes-là ont été mises en place de manière un petit peu sauvage par les rectorats et les chefs d'établissement pour garder ou pour attirer des enfants de familles aisées et avoir de la mixité scolaire et sociale. Dans un certain nombre de collèges, il y a de la mixité à l'échelle du collège et il y a une filière pour ces enfants-là, mais dans de très nombreux collèges, ce ne sont pas des classes, mais ce qu'on appelle des sections dans notre jargon, c'est-à-dire que sur les 20 élèves de la bilingue, eh bien, il y en a 4 qui sont dans les 5 cinquièmes. Et donc là, ça permet d'avoir de la mixité scolaire et sociale dans les établissements. Ce que nous craignons, c'est que la suppression sans aucun bilan, parce que c'est ça le problème des langues vivantes.
Il faut dire qu'on
n'a pas de bilan.
La ministre actuelle propose de supprimer ces classes.
Elle propose de supprimer, sections. Elle dit, je les supprime, mais tout le monde commence une langue vivante 2 en 5e. Alors qu'actuellement, pour la grande majorité des élèves, c'est en quatrième. Soit. Sauf que nous, ce qu'on aurait aimé, c'est avoir un bilan de l'enseignement des langues vivantes. Parce qu'on est censé commencer à les enseigner en CP. Tous les professeurs des écoles sont certifiés. Et aucun n'est... Enfin, j'exagère. Mais tous nous disent, dans leur grande majorité, y compris le syndicat SNUIPP Frères du SNES, nous dit, on ne sait pas vraiment faire. Parce qu'on a cette certification, mais le contenu de la certification est vide. Donc on récupère des élèves en sixième qui sont censés avoir eu 4 ou 5 ans de langue vivante, mais de fait, il faut tout reprendre de zéro. Donc, et ce système-là fait qu'on enseigne quasiment plus que l'anglais en langue vivante 1 en France. Ça pose un problème de fond. Peut-être on peut faire ce choix, mais si on fait ce choix, on le fait et on le dit. Or, actuellement, rien n'est dit. On nous dit simplement, les bilangues, c'est élitiste. Et moi, je demande à vraiment avoir un bilan parce qu'on n'est absolument pas convaincu au SNES sur cette question-là. On nous dit, c'est bien de commencer les langues vivantes très tôt. Là encore, c'est pas ce que disent tous les linguistes. Les linguistes, ils disent, à l'école primaire, ce serait mieux de travailler les langues. C'est-à-dire, plutôt éveiller l'oreille aux différents sons des différentes langues vivantes, plutôt que de commencer tout de suite une langue vivante. Dans la réforme qui est prévue là, des programmes, on dit aux collègues du premier degré, travailler surtout l'oral. Mais quand on a des classes dont le nombre d'élèves augmente d'année en année, travailler l'oral à 30 élèves, c'est quand même quelque chose de très compliqué dans le premier degré, comme ça l'est chez nous. Et donc nous, on trouve que sur cette question des langues vivantes, il y a beaucoup trop de discours idéologiques et pas assez de recherche et pas assez de dialogue.
Et vous avez fait des travaux, vous connaissez les travaux sur ces points, Denis ?
Non.
Donc ça corrobore un peu l'idée que pour l'instant on n'est pas très fourni alors.
Les évaluations du niveau d'anglais des petits Français qui sont régulièrement très mauvaises.
On peut pas dire que la France se distingue effectivement. Les jeunes Français comme les Français plus âgés d'ailleurs se distinguent pas par leurs compétences en langue.
C'est aussi qu'il y a des débats sans fin entre les spécialistes des langues sur ce qu'il faudrait faire, mais non, je n'ai pas de. À part ce fait que le niveau de nos élèves en langue vivante est vraiment pas très bon, je n'ai pas d'informations spéciales.
C'est-à-dire que si vous prenez la réforme, pardon.
Si vous voulez, je trouverais mieux qu'on élargisse un peu le débat sur que proposer, plutôt que de rester sur cette petite chose.
C'est effectivement ce que j'allais proposer.
D'accord.
On voit que c'est effectivement dans cette école, dans notre école française, que c'est compliqué de faire cohabiter ces différents niveaux parce que ben il y a un programme qui est unique, qui est adapté peut-être à une minorité ou en tout cas à un certain type de réflexion. Et du coup, c'est exactement ça que proposer comme nouveau modèle d'école. On voit qu'il y a des pédagogies différentes qui existent, il y a des modèles Steiner, entre autres, est-ce qu'il faut rester dans ce modèle-là et l'approfondir de façon différente?
Oui, Valérie.
Nous, au SNES, on pense que on pourrait déjà retravailler le modèle, on pourrait déjà l'approfondir avant de tout mettre à plat. Une des solutions qu'on propose, c'est de travailler sur les programmes, sur les contenus. Parce qu'actuellement, si un exemple tout bête, en classe de 5e, en sciences de la vie et de la terre, vous travaillez la respiration, donc vous faites la dissolution d'un gaz dans un liquide, le dioxygène dans le sang, et vous travaillez les gaz en classe de 4e, en physique. Et donc c'est très compliqué pour les élèves, quand ils sont en permanence à faire le grand écart, dans un ensemble de savoirs qui sont pas cohérents. Donc nous, on a un projet qu'on appelle la culture commune, qui est de construire des savoirs qui se répondent entre les différentes disciplines, qui simplifient la tâche de l'élève, en probablement faisant aussi un effort pour que ces savoirs qui soient plus cohérents ne soient pas aussi pléthoriques. Parfois, on a toujours cette volonté d'encyclopédisme à la française. On le voit actuellement, la polémique sur les programmes d'histoire, par exemple. Donc, retravailler ces programmes de manière à ce que l'élève moyen puisse le terminer, puisque de toute façon, dans aucune classe du collège ou presque, on ne termine le programme, sauf peut-être pour le brevet en classe de 3e. Donc, on a un gros travail à faire là-dessus. Et de ce point de vue, le Conseil supérieur des programmes mis en place par la loi de refondation de l'école de 2011 a travaillé, mais le travail qu'il nous propose actuellement est inabouti. Donc, on est assez déçus par le résultat.
Et Denis, vous me corrigerez peut-être, mais j'ai l'impression que le taux de satisfaction des élèves ou le taux d'envie des élèves d'aller à l'école diminue au fur et à mesure des années. Et dans ce cadre-là, j'imagine que le programme et la façon d'enseigner ont un impact majeur. Et du coup, sur ces inégalités entre les élèves qui sont poussés vers l'avant par leur famille, leurs parents, leur contexte, et ceux qui, au contraire, ont des difficultés à travailler parce qu'un logement trop exigu, cette envie-là diminuant ne doit pas aider les inégalités. Est-ce que je me trompe?
Oui, enfin, il faut faire attention parce que, pour une part, quand les élèves grandissent, quand les enfants grandissent, ils sont de moins en moins prêts à trouver ce qu'on leur donne bon. Et le fait de grandir, comme vous savez, on grandit en s'opposant. Donc, effectivement, on a les élèves de 3e sont beaucoup plus négatifs à l'égard de l'école que les élèves de 6e, mais quelque part, c'est aussi positif. Ça veut dire qu'ils se construisent et qu'ils se construisent leur autonomie.
Mais vous nous invitiez à réfléchir alors en termes de propositions, ou vous avez alors, quelques pistes?
Ce que je voulais dire d'abord sur cette question de l'égalité, des inégalités, c'est que le gros problème, c'est qu'on a beaucoup de caractéristiques du système scolaire français qui devraient nous valoir un système très égalitaire. Je pense à l'ampleur de la préscolarisation de l'école maternelle.
Je pense on dit beaucoup de bien.
Un tronc commun. On n'a pas de filière. L'OCDE dit aux pays qui veulent devenir plus équitables, faites une préscolarisation, supprimez les filières, faites un tronc commun, on les a. Ressources, on a des ressources pas trop inégales, moins que Attac ne le croit, parce que les professeurs les plus expérimentés ne veulent pas aller en Seine-Saint-Denis. Mais bon, on a quand même des ressources pas trop inégales, des profs qui sont pas formés à peu près de la même façon. On avait un gros handicap qui était les très forts taux de redoublement, mais le redoublement a diminué et la ministre a décidé de le rendre complètement exceptionnel. Donc ça, je pense que c'est des choses qui vont dans le bon sens. Mais bon, le problème, c'est que quand même, en ce qui concerne les caractéristiques structurelles du système, on a un système qui devrait être équitable. Alors,
et qui ne l'est pas.
Je ne sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes culturels et le fait qu'on soit resté un peu, qu'on ait gardé l'idée d'un second degré orienté, enfin, dont le modèle est le lycée, comme le disait Valérie en commençant, à mon avis, joue un rôle important. Et donc, mais je trouve que les réformes qui sont faites en ce moment vont vraiment, j'espère, vont donner des bons résultats et normalement devraient donner des bons résultats en matière d'équité. Et je pense à la fois à la réforme des programmes, la dernière tribune de la ministre réhabilitant le calcul mental, la répétition et les exercices, la dictée, je serai moins sûr, mais le calcul mental, la répétition, ça, c'est des choses dont on a vraiment beaucoup d'études empiriques qui disent que ce sont des bonnes façons de faire. Le calcul mental, le niveau de calcul mental au CE2 est le meilleur prédicteur du niveau en français et en maths en 6e et en 5e.
C'est effectivement intéressant, cette approche
par exemple, c'est vraiment très bien.
Et effectivement, il y a des normes et des choses qui sont en train d'être mises en place qui sont positives.
À la maison que ça va et profiter.
Malheureusement, on arrive bientôt à la fin de cette émission.
La réforme du collège elle-même, je trouve que les 3 heures d'accompagnement personnalisé qui visent à la maîtrise des fondamentaux en 6e, ça c'est vraiment important, et c'est vraiment important que ça vise les fondamentaux. Beaucoup de pays sont ralliés à mettre l'accent sur les fondamentaux aux États-Unis, au Canada, en Angleterre depuis bien longtemps, et c'est bien que la France s'y mette aussi, même si la ministre actuelle n'est pas la première à dire qu'il faut revenir aux fondamentaux. Je crois beaucoup aux enseignements pluridisciplinaires aux EPI, parce que comme vous disiez, il y a
vous devez conclure parce qu'il va falloir que nous-mêmes on conclue. Donc
c'est pour les élèves défavorisés de comprendre.
Denis, vous nous entendez ?
Et les élèves favorisés, ils savent très bien le sens de ce qu'ils font, c'est pour aller à Polytechnique. Mais
Denis,
les autres, faire des travaux concrets qui montrent qu'effectivement les disciplines peuvent être réinvesties de façon à résoudre un problème concret, je crois que c'est quelque chose qui devrait vraiment beaucoup les aider. Et
Denis, il faut conclure parce que là vous êtes en train de... Vous nous entendez ?
Je suis un peu seul de mon espèce, de cette expérimentation sur le dernier mot aux parents. Je ne sais pas trop où ça en est, mais pour moi, donc c'est sur... pour l'orientation de fin de troisième.
Donc merci Denis. Merci Denis. On va laisser un dernier petit mot à Valérie.
De formation.
Il y a Valérie qui va répondre du coup sur ce
ah ben
point-là
nous, ouais,
pour conclure en
c'est-à-dire
quelques
que
mots.
Pour conclure en quelques mots, pour le SNES, on a une analyse radicalement différente de la réforme. L'accompagnement personnalisé, par exemple, il se met en place au détriment des enseignements disciplinaires. Moi, je ne sais pas ce que c'est que les fondamentaux. J'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est qu'un enseignement fondamental. Et avant de le défendre, on pourrait se mettre d'accord sur ce que c'est. Et puis, la réforme met en place une marge d'autonomie très grande dans les établissements, ce qui va épuiser les personnels pour la mettre en place. Et cette marge, parce qu'il va falloir se réunir sans cesse pour répartir les horaires, pour répartir les programmes. Et tout ça pour mettre en place aussi une interdisciplinarité dont ce que nous disent les chercheurs, c'est qu'au niveau du collège, il n'est pas certain qu'à cette dose-là, ça aide les élèves en difficulté. C'est-à-dire que les meilleurs élèves vont certainement en profiter, mais les élèves qui ont déjà du mal à réussir, ça risque de les mettre encore plus en difficulté. Donc on a de grosses interrogations sur la nécessité de mettre les personnels en réunionnite permanente pour des dispositifs pédagogiques qui, jusqu'à présent, accompagnement personnalisé au lycée ou interdisciplinarité au collège, n'ont pas fait leur preuve à cette dose-là.
Ben, merci beaucoup pour cette émission. Merci à nos deux invités. Le temps de parole est court, mais je pense qu'on a eu une belle vision de ce sujet grâce à eux.
Y compris des débats qui se poursuivent visiblement. Hein.
Voilà. Donc, on vous attend dans bientôt 4 semaines sur le thème de l'agriculture. On vous souhaite à tous une très bonne soirée.
Et à bientôt. On va passer maintenant à la pause musicale, si c'est possible. Au revoir.
Merci, au revoir.